tu es le Dieu merveilleux. Et nous voulons continuer à te célébrer, à te bénir. Parce que tu es digne d'adoration et de célébration. Tu nous fais grâce d'être encore dans ta présence ce soir pour chercher ta volonté parfaite. Ce qui fait de toi Dieu. Le Dieu incomparable et puissant. Le Dieu omniscient et souverain en toutes choses. Nous sommes des privilégiés, ô Père, parce que nous sommes encore dans ta présence. Et nul ne vient sincèrement dans ta présence et en repart la vie vide sans que tu aies opéré quelque chose en lui. Et nous sommes venus te chercher. Nous venons avec nos manquements pour les déposer à tes pieds. Nous venons avec nos vides afin que tu les remplisses. Nous venons avec nos soupirs afin que tu les élèves toi-même à toi. Nous venons communier entre frères et sœurs afin que tu répandes sur nous ta bénédiction. Seigneur, ravive notre zèle et qu'au sortir d'ici ce soir, nous ayons envie de faire un pas nouveau. Que ceux qui étaient couchés trouvent la force et la détermination à se relever, secourus par ton esprit. Et que ceux qui croyaient être debout, non seulement prennent garde de tomber, mais marquent des pas encore plus cadencés sous l'inspiration de ton Esprit Saint. Conduis à nous les frères et sœurs qui sont encore en chemin. Qu'ils nous retrouvent et qu'ensemble puissions chercher ta face. Gloire à toi, ô Jésus. Amen. Amen. Viens nous asseoir. Bonsoir et bien-aimés. Aie le courage de recommencer. C'est la deuxième leçon du module, du troisième module de notre programme. Le meilleur est à venir. Je voudrais commencer par dire une chose qui est importante, bonne à savoir. Aucun homme ne connaît la volonté parfaite de Dieu. La connaissance que nous avons est toujours très parcellaire. Aucun homme ne connaît la volonté parfaite de Dieu. Et si nous connaissons la volonté parfaite de Dieu, nous n'avons plus besoin d'être là pour apprendre. Notre prière prend une seule orientation, celle de le louer et rien d'autre en plus. Puisque si on sait tout, tout ce qui nous reste, c'est célébrer Dieu. C'est faire le travail de ces anges qui sont assis au ciel et qui passent leur journée à chanter et à jouer des instruments merveilleux. C'est parce que nous n'avons pas la connaissance parfaite de la volonté de Dieu que nous sommes là, que nous continuons à chercher sa face, que nous continuons à accepter de nous asseoir pour être édifiés, pour apprendre, que nous choisissons de le laisser encore nous conduire, que nous choisissons de recevoir l'interpellation des Saintes Écritures afin qu'elle nous modèle, qu'elle nous façonne, parce que l'image de Christ se grève de façon parfaite en nous. Voilà en réalité notre situation, notre état réel. Des hommes et des femmes en quête de la volonté parfaite de Dieu. Et c'est pour ça que quelle que soit la situation, la position, l'état où tu es, il y a quelque chose à faire de nouveau. Oui. Que ce soit pour celui qui a des signes extérieurs de richesse, qui peut, dans une situation particulière, croire qu'il a réussi, qui peut, en raison d'un certain nombre de choses qu'il voit, qu'il a, qu'il possède, qu'il fait, croire qu'il a atteint le sommet, cette personne-là a des choses à faire et à recommencer. Parce que comme tu ne connais pas la volonté parfaite de Dieu, tu ne sais pas encore si Dieu t'a déjà poussé jusqu'au niveau où il veut que tu arrives. N'est-ce pas? Si tu as déjà eu à faire 7 jours de jeûne sans manger ni boire, mais il y a un 8e jour, tu peux faire 8 jours. Vous voyez qu'il y a toujours quelque chose à faire devant. C'est pour ça qu'on a dit, le meilleur reste à venir. Et Dieu nous l'a dit. Il dit, quand tu as fini de faire ton ouvrage, quand tu as tout fait, quand tout est terminé, il te dit, dis-toi, je suis un serviteur inutile. C'est-à-dire que tu es comme au point zéro. C'est l'instant où tu dois commencer. C'est l'instant où tu dois commencer. Et chaque appel doit rafraîchir notre esprit dans ce sens. À peine tu as fini une chose de façon parfaite, les gens te couvrent de toutes sortes de... Je ne sais pas comment dire. C'est à ce moment-là que tu dois recommencer parce qu'il y a un pas nouveau que tu dois poser. Bien plus grave pour celui qui est dans l'échec. Pour celui qui, dans une situation particulière, a échoué. Rencontre des obstacles, des barrières. Bien plus grave pour Pierre qui a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Qu'il ne travaille pas. On va voir ce qu'on va manger chez lui demain. S'il veut, il s'assoit au bord de la rivière, il pleure. On verra si on va manger chez lui demain. Que Jésus soit là ou pas, il faut bien que Pierre revise les techniques de pêche, qu'il retrouve le zèle et le courage, qu'il arrange les filets et que demain soir, il reparte. Pour une autre nuit dans les moustiques et tout ce qui peut arriver, parce qu'on peut courir comme risque sur la mer. Mais seulement, lui, il a eu la grâce de rencontrer le Seigneur à cet instant difficile. Qui lui a dit, c'est vrai que tu n'as rien fait hier. Tu as travaillé toute la nuit, tu n'as rien pris. Mais j'ai encore le filet. Il a dit, recommence. Prends le risque de tout reprendre. Oui. Mais mon fils ramène le bulletin. Premier de la classe, 14,81. C'est très bien, tu es un brave garçon. Pour l'instant, tu es le meilleur. Vraiment, je suis le papa le plus heureux. Et toi, tu es un bon fils. Mais il y a 15 de moyenne. C'est bon, non? 14,80, c'est bon, non? Mais il y a 15 de moyenne. Ceux qui ont 15 de moyenne, là, ils mangent quoi chez eux? Chez eux, on prépare les cailloux. Mais il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Le meilleur reste à venir. Souvent, ce que tu crois être l'échec, c'est juste le moyen que Dieu t'a donné pour te propulser dans ce qu'il voulait définitivement que tu fasses. Tu as prié 10 jours, 1 an, ça n'a rien donné. Mais Dieu veut juste que tu ajoutes 3 jours de plus. Peut-être c'est au bout du 3e jour que la solution est là. La solution, c'est juste là à côté. Juste à côté là. Prochain jour. Oui. Oui. Et je vois les gens dire, oh, j'ai pris un moment, j'ai fait déjà 10 jours de prière. Mais qui fait 10 jours de prière? Tu n'as fait qu'un jour de prière, plus un autre. Et plus un autre encore. Avez-vous compris ce que je dis? Qui a compris ce que je viens de dire? Tu veux prier pour une chose, pour demander une chose au Seigneur. Et tu t'assois, tu pries toute la journée. Quand la journée est finie, tu rends grâce à Dieu, tu pars dormir. Et tu te réveilles demain, tu prends un autre jour de prière. Ce n'est pas forcément plus le jour d'hier. Parce que peut-être hier, là, mon Dieu, tout ce que tu racontais là, c'est, tu étais tellement distrait que ça n'a rien donné. C'est aujourd'hui que la vraie prière a commencé. Tu finis le jour d'aujourd'hui. Tu as tapé peut-être 16 heures de prière et puis tu t'es mis à quelques autres petites choses. Et puis tu t'en vas dormir. demain tu te réveilles. Ce n'est pas un jour de plus, c'est un autre jour de prière. Ce n'est pas un jour de prière de plus. J'ai fait 40 jours de jeûne de prière. Oui, tu as fait quoi? Peut-être c'est à partir du 23e jour que tu commençais réellement à prier. Qui comprend ce que j'explique? Et du coup, il n'y a pas de gens qui sont trop forts parce qu'ils ont prié, mais qui ont forcé Dieu à agir parce qu'ils ont prié. Non. Il n'y en a pas du tout. Je ne dis pas de ne pas prier sur beaucoup de jours, c'est pas ce que j'ai dit. Mais si tu pries sur beaucoup de jours, tu additionnes ce nombre de jours pour dire que tu es fort, c'est rien. Il y a quelqu'un qui a fait la même chose que toi, mais en une heure. Parce qu'il était dans la bonne disposition. Tout ce que tu as fait pendant les 39 premiers jours, c'était juste la préparation à dire ce que tu as dit le dernier jour et Dieu a exaucé. Qui comprend ça? C'est pour ça qu'il faut prendre le risque de reprendre. Parce que peut-être tout ce que tu as fait, c'était juste la préparation. C'est demain que le vrai programme commence. C'est demain que ça commence. Dieu a préparé ta vie pour ça. Il a un plan pour lequel il t'a fait venir ici. Et rien ne te dit que ce plan-là, ça va se déclencher au bout des 4, 5, 6 jours de travail ou bien de choses trop concentrées, c'est concentré selon toi que tu vas faire. Mais non. C'est pour ça qu'à chaque instant, tu dois te rendre à nouveau disponible en les mains du Seigneur pour que, dans sa grâce, ce soit l'instant propice, l'instant idoine qu'il te saisit pour accomplir sa volonté. Mais Pierre était un spécialiste des activités halieutiques. Mais ce jour-là, il n'a rien pris. Et je dis souvent, si Pierre avait pris plein de poissons, il devait être concentré à faire le tri au petit matin quand Jésus est venu. Et pendant que Jésus parlait, il devait lui dire, mon gars, si je t'écoute, mes poissons vont pourrir derrière. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut rapidement récupérer les maîtres à froid, dans une chambre froide, pour les conserver. Imaginez que Pierre ait rempli des barques et des barques comme Jésus l'a fait faire après. Il devait être distrait. Il fallait bien que Pierre vive ce vide, cette nuit de vide. Pour qu'étant dans le vide, il soit dans la soif d'écouter quelqu'un qui peut lui proposer quelque chose d'autre. Une espèce de cinglé qui ne connaît rien de la pêche, qui lui dit, prends le risque de recommencer, jette encore le filet. Oui. J'imagine que le gars me dit, qu'est-ce que tu en sais? Tu connais quoi la pêche? Vous voyez? C'est comme ça que nous réagissons. Ouais. Mais souvent, ces vides-là, c'est pour dire recommence. Chaque situation que nous vivons nous place dans deux états, dans deux orientations. Ou peut-être même trois. La première, c'est que c'est compliqué. On a échoué et on abandonne. Ça, c'est ce que la nature humaine veut le plus. Que gars, c'est dur. Mieux je laisse, je me débrouille ailleurs. Je recommence autrement. Ah, j'ai tenté, ça n'a pas marché. Non, non, si c'est le truc là, non, je ne peux plus faire ça. Je me suis battu là, ça n'a pas donné. Je veux me battre d'un autre côté. Si tu te bats d'un autre côté, parce que Dieu t'a convaincu que c'est là qu'il faut réinvestir des efforts, gloire à Dieu. Mais si Dieu ne t'a pas convaincu d'abandonner, n'abandonne pas, continue. Amen. Tu dois reprendre là-bas. Même si tout le monde démissionne, tu dois y reprendre. L'autre état, l'autre décision qu'on prend, c'est se dire, peut-être il faut que je revoie les procédés que j'ai mis en place et qui m'ont conduit à ce résultat. Et que je voie ce que je peux améliorer. Soit on analyse sa marche, on analyse, comme on avait dit, tout le processus. on essaie de voir est-ce qu'on avait bien mis les choses en place. Si les choses étaient bien, est-ce que j'ai bien exécuté? Est-ce que sur le plan pratique, j'ai fait les choses comme il fallait? Parce qu'on peut avoir toutes les notions de direction, mais on ne sait pas diriger. N'est-ce pas? C'est pas ça? On peut avoir toutes les notions de planification, mais on ne sait pas planifier. De même qu'on peut prendre tous les coups de prière, mais on ne prie pas comme il faut. C'est pas ça? Oui! On connaît toutes les leçons sur le pardon. D'ailleurs, on a enseigné sur le pardon, mais on ne connaît pas pardonner. Mais oui, il y a problème. Ça veut dire qu'il faut que tu t'asseyes, tu revois d'abord tout ce que tu as reçu sur le plan théorique. Maintenant, dans l'application, qu'est-ce qui a manqué? Oui. C'est vrai aussi sur les aspects purement techniques, scientifiques. On peut avoir toute la connaissance, mais pratiquement, on n'a pas fait les choses avec une certaine précision. Oui, on va échouer. Il faut s'arrêter, analyser tous ces procédés, s'amender et repartir. Et prendre le risque de recommencer. Dans tous les cas, si nous ne prenons pas soin de recommencer, à un moment donné, Dieu nous l'impose. N'est-ce pas? Souvent, Dieu nous impose ça. Vous pensez que Dieu n'a rien imposé à notre église? Je ne sais pas, hein? Bon, peut-être. Hein? On te dit ah, trop fort. C'était la plus grande église, les meilleurs, les champions, les plus nombreux protestants, patati patata. Ouais, c'est ça. Et Dieu dit, on va reprendre toute l'histoire. Peut-être, hein? Je ne sais pas. Je ne connais pas la volonté parfaite de Dieu. Mais c'est une possibilité. Josué vient avec Israël de remporter quelque chose d'extraordinaire. Et on aime chanter ça. Les murs de Jéricho sont tombés quand Israël louait Dieu. Est-ce que vous imaginez ça? Que nous nous retrouvions ici pour prier pour une situation de blocage. Et que pendant qu'on est en train de chanter, de célébrer le Seigneur, parce qu'il est le Dieu bon, le Dieu puissant, le Dieu qui peut accomplir cette chose-là, nous entendons que les murs sont renversés. Comment tu te sens? Ah non, en extase spirituelle. N'est-ce pas? Tu es en extase, tu dis non, mais ça, s'il suffit de chanter pour que tu aies. Non, ça dit que je suis waouh. N'est-ce pas? Tu es heureux, tu es dans une liesse sans limite. Tu commences à croire que tu peux tout. Encore que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Ce qui est vrai. N'est-ce pas? Mais comme tu peux tout, mais Dieu peut aussi mettre un obstacle qui est plus gros pour que tu déploies ce tout que tu peux. Encore ce pouvoir que tu as. Alors tout semblait simple pour Josué et le peuple. Il est face à un petit peuple. Et à un moment donné, comment on m'a pensé qu'il peut réduire l'armée? Qui va aller batailler contre Aï? Mais il sera surpris que la petite tribu là va les massacrer correctement. Israël et Josué étaient si sûrs qu'ils tenaient le bon bout, qu'ils maîtrisaient la chose, que Dieu était avec eux, qu'ils n'ont pas pensé ensemble à être sentinelles les uns les autres et à se sanctifier. Voilà le problème d'Israël dans cette situation. Ils n'ont pas pensé à être sentinelles les uns les autres, ils n'ont pas pensé à se sanctifier en permanence, parce que comme Dieu est avec nous et nous donne victoire, on n'aura que victoire sur victoire, grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction, comme nous aimons bien, sans nous arrêter et regarder derrière, voir les difficultés qui peuvent se pointer. Ils vont essuyer une défaite humiliante devant un petit peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un tricheur. Et Israël n'a pas pris le temps de s'arrêter ensemble pour se regarder, pour se sanctifier et voir. Josué aurait pu dire, ouh, ça c'est la honte, gars, fuyons. Le petit peuple, si nous gagne, vous savez qu'il y a les bagarres ou quand quelqu'un vous gagne, vous n'avez pas envie de recommencer. Non, quand même. Hey. Vous savez qu'il y a les gens, les deux ou les gens blancs se vantant, non? Vous voulez que je vous dise? Alors, quand un gars est sur le bain sikin, dans le coin, il meurt. Vous pensez qu'on pleure en faisant. Bon, on a honte. C'est les un genre. Mais quand le fils du voisin meurt parce qu'il a fait l'accident d'avion, car.
c'est bizarre.
Oui, et on écrit ça en gros caractère sur le carton. Mort de suite d'un crash d'avion en Éthiopie, c'était où là? Pas comme ça. Mais oui, les gens veulent qu'on lise la phrase là. Comme ça ajoute que je le garde à mort. Il est mort. Mais on se donne un certain genre de plaisir idiot et bête qui n'a pas de sens, qui n'apporte rien. Mais oui, ça se fait, les gens font ça. Soyez tandis quand vous prenez les cartons qu'on vous donne là. Hein. Souvent j'analyse ça tout doucement. Mais pourquoi le deuil ici? On a mis tout, même son nom n'est pas anglais. Après on met décédé de suite d'un crash d'avion. Oui. Israël, avec Josué, aurait pu se dire non, ici là, le genre de honte avec Haï, qui est un petit peuple comme ça. Non, 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 non. Faut qu'on fuit, personne ne nous voit. Mais Josué va s'arrêter et revenir à Dieu. Mais c'est quoi cette histoire? Comment nous avons remporté une telle bataille contre Jéricho? Et ici, nous sommes coincés. Que se passe-t-il dans le fond? Explique-moi la situation. Seigneur, ouvre-moi donc. Donne-moi de cerner ta volonté par rapport à cette situation. Et Dieu va lui dire, fais le check-up de tout le peuple. Famille par famille. Jésus passe en revue famille par famille. Et puis tombe sur la famille d'Akan. Il dit à Akan, explique-nous toi-même l'histoire. Ici. Il semble que c'est toi notre le traître dans l'histoire. Akan va lui dire, j'ai volé. J'ai pris dans le trésor du Seigneur. J'ai pris dans les choses que Dieu avait dévouées par interdit. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Israël tout entier, sous la conduite de Josué, sera appelé à sacrifier toute la famille. Et Dieu leur ordonne de repartir en guerre. Israël prend le courage. Josué motive le peuple et ils repartent. Et la petite tribu va essuyer une défaite écrasante. Mais, bien aimé, je veux te dire que l'échec que tu connais pour l'instant, ce n'est pas ta vraie situation. La difficulté que tu as au travail là, ce n'est pas ça ta situation. Le blocage que tu as au même poste depuis 5 ans, ce n'est pas ta situation. Le meilleur reste à venir. Ce que Dieu veut, c'est que tu recommences avec lui. C'est que tu reviennes le voir pour rediscuter du dossier et qu'il voit ce qu'il va faire pour te propulser dans ta vraie dimension. C'est ça ta vraie situation. Dieu a-t-il dit son dernier mot? Je ne pense pas. Non. Je voudrais dire une chose qui est claire. Dieu ne nous appelle jamais dans des sentiers où il n'est pas présent. Si tu as la conviction que Dieu t'a dit, engage-toi dans telle voie. Même si c'est difficile, continue. Même si c'est compliqué, fonce. Si tu vois un mur, ne t'ennuie pas, tu vas le renverser. Oui, oui, les chars de guerre que tu vois devant là, c'est les mirages. Dieu va les raser. C'est ce qu'il a dit à Pharaon, avec Pharaon. Il dit à Israël, tourne-toi, regarde derrière. Cette nuée que tu vois avec tous ces chars, c'est un mirage. La difficulté que tu rencontres, c'est un mirage. Dieu va l'enlever. Pour peu que tu sois ferme et déterminé, Dieu va l'enlever. Malheureusement, on ne croit pas suffisamment en tout ce que le Seigneur a mis en nous. Et souvent, quand on croit, on veut passer à l'acte conséquent. On verra plus loin quelque part, il y a un soit audacieux dans le manuel. L'audace, l'autre revers de la foi. On ne veut pas être audacieux. Ou encore, on ne veut pas s'arrêter pour laisser Dieu nous conduire à une introspection, trouver les obstacles et nous conduire à recommencer, à repartir. Mais tant que tu ne repars pas, tu ne sauras jamais si ce qui est devant était meilleur que ce que tu as vécu hier. Oui. Oh, j'ai essayé ce truc 5 fois, ça n'a pas marché vraiment. Mais il y en a qui ont fait le même examen 7 fois. Ils ont tenu. Ils ont réussi le même jour qu'un concours. Que ceux qui ont eu 1 fois n'ont pas eu. C'est pas ça? Pourquoi on abandonne? Le meilleur reste à venir. Et si le meilleur reste à venir, le tout n'est pas que tu choisisses d'être meilleur, mais c'est qu'en plus de croire au fond de toi, de décider que tu es meilleur, que tu n'es pas le dernier, c'est que tu prends le risque de reprendre, de te remettre au travail. C'est que tu prends le risque de revenir à Dieu pour réanalyser la situation. Voilà, en gros. Je ne vais pas m'étendre sur l'exemple. Vous avez lu le manuel, n'est-ce pas? Je ne vais pas m'étendre. Je préfère m'arrêter là parce que j'estime que c'est clair et ouvrir des questions pour qu'elles soient un peu plus clarifiées. Il y a encore du temps. Je préfère. Que Dieu vous bénisse. Questions s'il y en a? Ou bien vous voulez 45 minutes d'enseignement? Je continue à bavarder jusqu'à 45 minutes. Manuel, quel est le thème d'aujourd'hui là? N'aie pas honte, lève ta main, même si tu vas trahir ton voisin en montant, levant ta main, c'est pas grave. Tu ne sais pas toi qui lui a dit de ne pas lire. Lève ta main si tu as lu. Maintenant, les gens veulent protéger tout le monde. Quelqu'un lève le doigt comme ça. Bon, ne levez plus alors. Et je voudrais vous encourager à le lire. Ce que nous faisons le soir, c'est peut-être apporter un peu plus d'éclairage selon que le Seigneur nous met à cœur. Par rapport à ce que vous avez déjà lu. Ce n'est que ça. Donc si vous n'avez pas lu avant, vous risquez d'être moins servi. Lisez le manuel. Encore, ce n'est pas long, c'est 4 pages maximum par thème. Et on l'a fait sciemment. Pour que ce soit dégustable par chacun. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, papa Emmanuel.
Il faut que les barrières qui sont devant nous ne sont que des mirages. Je n'ai pas bien compris le mirage. Qu'est-ce que le mirage?
Des choses qu'on voit qui peuvent nous faire peur, mais qui en réalité à tout moment vont disparaître. Dieu va les raser. C'est ça. Pourvu que nous tenions ferme. Si vous n'êtes pas déterminé, chaque chose que vous voyez devant vous peut vous bloquer. Quand il y a une difficulté en face de vous, elle peut prendre 2 sens. La difficulté peut devenir un obstacle, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Première orientation. Mais la difficulté peut devenir aussi un jalon sur lequel vous allez vous poser pour être propulsé plus loin. Et les visionnaires ne voient pas d'obstacle. Ils ne voient que les jalons. Oui. Tout visionnaire, si vous voyez les obstacles encore devant vous, ça veut dire que vous n'êtes pas visionnaire. Il faut réfléchir à ça. Un visionnaire ne voit pas les obstacles. Il y a des difficultés. Et quand il regarde la difficulté, ce qu'il voit, c'est un jalon qui va le propulser vers l'accomplissement d'une nouvelle opportunité. Est-ce qu'on se comprend très bien? Oui. Dès que vous voyez l'obstacle, vous êtes bloqué. L'obstacle, c'est qui vous empêche d'avancer, de faire le prochain pas. Ouais. Elle dit, le patron qui te dérange beaucoup, c'est vrai, tu commences à louer, tu dis, oh Seigneur, merci parce que tu as mis cet homme très dur devant moi. Parce qu'il va me pousser à travailler avec plus de perfection. Et demain, les gens verront la qualité de mon travail et me nommeront à un poste peut-être plus grand que le sien. Et je confesse que c'est peut-être moi qui corrigerai ou bien qui donnerai sa note. Pour les gens qui... Mais c'est pas ça. Si tu ne vois pas comme ça, tu es mort en guerre. Tu rentres le soir, vraiment mon patron, je ne m'aime pas. Vraiment, je veux me faire quoi, je dors. Même si je fais, il ne va pas voir. Donc mieux, je ne fais pas. Tu vas sentir. C'est ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, ça c'est bien ici. Hein? Ah ouais. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va prier. Vas-y.
Bonsoir, pasteur. Ma question, c'est par rapport à l'introduction.
Salut tout le monde aussi, mon frère. Tu me salues seul comment?
Bonsoir tout le monde. Ma question, c'est par rapport à l'introduction. À l'introduction, vous avez dit on ne peut pas connaître la volonté parfaite de Dieu. Et j'aimerais bien savoir de la parole qui dit afin de connaître ce qui est agréable, bon, agréable et parfait devant Dieu. Mm-hmm. Et en deuxième plan, je ne sais pas si est-ce que c'est dans le cadre où on généralise que c'est peut-être impossible. Parce que dans un domaine particulier, est-ce qu'il est possible de connaître la volonté de parfaite de Dieu dans un domaine précis? Parce que c'est pas peut-être que Josué, j'ose croire que la volonté parfaite était de faire le tour de cette fois le tour de la muraille. Bon, je vais un peu comme éclaircir ça dessus.
Ouais. Dieu peut dans une situation précise te présenter, te révéler exactement ce qu'il veut que tu fasses, n'est-ce pas? Mais tu ne peux jamais dans tous les domaines de l'existence connaître tout ce que Dieu veut exactement faire. Jamais. Dieu dit à Josué, maintenant que tu as purifié, sanctifié le peuple, lève-toi, tu vas en guerre contre Aï. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu veut, non? C'est pas? Et Josué l'a fait. Mais quelle est la finalité? Non. Quelle est la finalité de cette bataille, cette nouvelle bataille que Josué va remporter contre Aï? Après ça, il y aura quoi? C'est toi qui dis. Après ça, c'est quoi? C'est quoi l'étape suivante? Maman a dit, Dieu seul sait. Vous voyez? C'est pour ça que quand on est dans les situations de, comment je vais dire, d'intimité, de révélation, de conviction sur le plan spirituel, si c'est une prescription de la parole scripturaire, vous êtes bloqué là-dessus. Ok? Mais si c'est une conviction personnelle, elle vous engage, vous, en premier, et pas forcément les autres. Parce que vous savez exactement ce que Dieu vous a dit. Mais les autres ne savent pas. Et même s'ils savent, ils ne connaissent pas la suite. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est bizarre, mais c'est ça la réalité. Ils ne connaissent pas la suite. Après ça, c'est quoi? Et c'est parce qu'on ne connaît pas cette volonté parfaite, totale de Dieu, qu'on revient à lui en permanence. Que même quand il y a l'échec, on recommence avec lui, on revient avec lui. Que Seigneur, l'échec, s'il veut dire quoi? Et je suis en train de voir que je pense, ma chair me dit que tu veux que j'abandonne. Mais est-ce que c'est vrai? Non. Souvent, l'échec veut dire fais encore plus d'efforts. Souvent, l'échec veut dire tu n'es pas prêt pour la prochaine étape. N'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend? Souvent, l'échec peut vouloir dire effectivement, ta part suffit ici. Passe ailleurs maintenant, va à une autre chose. Mais comment tu le sais? À l'avance, tu le sais pas. Il faut que tu reviennes à Dieu. C'est pour ça qu'il faut prendre le risque de. Oui. Et même, quand tu prends un verset biblique et tu le lis, et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. N'est-ce pas? Envoyé où? Hein? En mission. Faire quoi? Annoncer l'évangile. Comment? Hein? Prêcher partout dans les rues, a dit sortir les soirs avec sa Bible, marcher, rencontrer quelqu'un, parler de Jésus. C'est le côté. se comporte. Vous voyez que
c'était
lui le même verset. Et on est tous en train de discuter dessus. Moi j'ai compris, je comprends. La paix soit avec vous. Allez, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Et il dit, envoyez faire quoi? Tout le monde dit, en mission. On est tous d'accord, premier point. Deuxième étape, en mission, comment? La mission va se faire comment? Toi, tu penses que comme tu as le zèle pour annoncer l'évangile brut, rencontrer quelqu'un lui dit, Jésus t'aime, dans lui ta vie, il veut faire ceci. Toi, tu aimes faire, tu penses que la mission c'est ça, n'est-ce pas? Pour la vendeuse de tomates, c'est la façon d'accueillir le client qui est venu. S'arranger afin pour que il ne voit pas que c'est trop cher, ne pas le duper, ainsi de suite. C'est ça la vendeuse de tomates. Hein? Celui qui est le cordonnier qui arrange les chaussures, c'est s'assurer que la chaussure que tu as donnée, il arrange bien la panne, il te la remet au jour qu'il a promis. Vous savez que c'est ça? L'évangile passe par là. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que c'est faux. Vous voyez, chacun comprend de sa manière. Mais c'est quoi la volonté parfaite de Dieu? Si je suis à un séminaire avec les cordonniers et les savetiers, je leur décris la volonté de Dieu pour la mission dans ce texte, en parlant des chaussures, en parlant des semelles, en parlant des aiguilles, du fil à coudre les chaussures, c'est par là qu'ils vont comprendre. C'est pas ça? Si je me retrouve avec les Bayam Salam, je leur parle un autre langage. Comment Dieu peut intervenir dans leur vie? Par la qualité des produits qu'ils vendent et par la façon de vendre? Comment il peut intervenir dans leur vie en les aidant à organiser leur activité, sortir à 4 heures comme ils font là et gérer leur maison? C'est par là qu'ils comprendront la vraie mission. Il s'agit du même texte. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Vous voyez, à chaque moment, on peut faire une autre lecture. On ne peut pas refermer. Mais ce qui est important, c'est que quand tu butes dans la compréhension, dans l'action par rapport à ce texte, tu fais quoi? Tu rentres à Dieu. On est d'accord sur le principe? Et dans toute situation que nous vivons, que nous rencontrons, tu ne peux pas, en tant que chrétien, penser que c'est terminé, tout abandonné, te bloquer, alors que tu n'es pas rentré voir le Seigneur, alors que tu n'as pas examiné toi-même ta marche. Parce que souvent, ce n'est même pas le Seigneur qu'il faut voir. Non, souvent, ce n'est pas le Seigneur. Souvent, c'est toi-même. Attends. Mais si tu sors de la maison avec 10 000 francs, tu es en train de partir de Bafoussam pour Douala. Tu as acheté ton ticket à 3 000 francs, il reste 7 000. Un indigent te dit, j'ai un besoin de 6 et tu prends les 7 000, tu lui donnes. N'est-ce pas? Est-ce que tu as besoin que quelqu'un te dise ou bien de prier pour que comprendre que tu vas voyager 105 francs et que tu vas rien manger en route? Il faut prier pour ça. On prie pour le genre là. Et prier bizarre. Tu as prié pour ça. Tu avais 10 000, tu as acheté le ticket à 3 000. Tu as donné 7 000, il te reste combien? Rien. Donc si quelqu'un fait ses archives en route, tu rends seulement grâce à Dieu. Et tu... C'est terminé. Maintenant, tu arrives à Douala. Tu arrives à Douala. Tu fais une hypoglycémie. Est-ce qu'il faut une nuit de prière pour comprendre que la prochaine fois tu lui donnes 6 000, tu gardes 1 000 francs? Non! On ne prie pas pour ça, monsieur. Tu comprends toi-même. Tu examines ce que tu as fait. Et la prochaine fois, quand tu vas recommencer, tu seras plus sage, gars. Si vous voulez dire que le pasteur nous apprend à être chiche, ça vous regarde. Question. C'est la dernière question, après on va prier.
Oui, ma question est celle-ci. J'aimerais savoir si c'est possible réellement de recommencer dans tous les domaines de la vie. Je m'explique. La dernière fois, on a parlé de... le thème d'aujourd'hui dit « Oser recommencer ». Oui. Et la dernière fois, il y a les papas qui ont travaillé même avec les faux actes. Est-ce qu'ils peuvent recommencer? C'est ma question. Il y a les jeunes filles qui se sont mariées, elles ne connaissaient pas Dieu. Elles sont allées vers d'autres dieux, elles ont même eu d'autres enfants. Même au mariage, elles ne connaissaient pas Dieu. Quand elles reviennent à Dieu, elles comprennent que ce n'est pas bien. Est-ce qu'elles peuvent recommencer? C'est ma question.
Il y a eu un thème sur la restitution qui permettait d'évoquer ces choses. C'est un domaine très très délicat. Il y a des éléments de restitution qui sont difficiles. On peut avoir la restitution sur le plan matériel, mais on peut restituer la paix intérieure. Vous comprenez ce que je dis? On peut restituer la paix. On peut se redonner de nouveaux calibres de vie, une nouvelle façon de faire par rapport à ce qu'on a fait dans le passé. Quand Zachée dit, si j'ai pris une chose à quelqu'un, je lui donnerai au quadruple, c'est ça? 4 fois. Je lui donnerai 4 fois. En fait, matériellement, il restitue. Mais si après avoir tout restitué, une autre personne à qui il avait pris vient, il n'a plus rien, il fait quoi? C'est bizarre, vous n'avez pas pensé à ça? C'est-à-dire que Zachée a pris des choses aux gens, il ne connaît plus tout ce qu'il a escroqué. Il a pris ce qu'il a comme bien maintenant, il a redistribué. À la fin, il n'a plus rien. Mais il constate que d'autres personnes reviennent et disent que tu avais pris mes 5 bœufs. Il fait comment? Vous vous êtes pas posé la question? Ouais, matériellement, il ne peut pas restituer. Mais spirituellement, il a même déjà restitué. Oui, c'est ça le problème. La première dimension, c'est l'accord avec le Seigneur. La restitution commence par là. Les accords qu'on fait avec le Seigneur. Et maintenant, on peut les matérialiser au travers de la relation avec l'autre, quand on repart le tort, on restitue la chose matérielle qu'on a pris, ainsi de suite. Mais on peut réparer tout, mais pas forcément sur le plan matériel. Une jeune fille a épousé un monsieur, un débat chrétien, patati patata, et sa vie est compliquée. Mais au moins, elle a reçu une expérience qu'elle va utiliser quelque part. Elle peut retrouver la paix si elle se met en accord avec Dieu par rapport à cette situation. Elle peut même redonner à cet homme qui est païen, comme elle, d'hier, malgré la situation qu'elle a déjà vécue. Elle peut contribuer à restaurer de nombreux enfants qu'elle a eu, ou encore restaurer de nombreuses autres filles comme elle, pour que demain elle ne tombe pas dans certaines situations. Oui, on peut restituer. Un père a travaillé avec un faux acte. Il a nourri ses enfants et tout ça avec l'argent qu'il a eu. La première chose, c'est de confesser ça. Même s'il veut restituer, comment tu peux faire pour restituer 40 ans de salaire? Ce qu'on vend ta propre vie, ça ne va même pas suffire. Comment? Tu vas faire comment? Oui. Moment où tu repars la situation sur le plan spirituel, tu peux la confesser publiquement et interpeller les gens à ne pas rentrer dans ça, à voir le mal que cela peut constituer. Mais s'il y a des choses matérielles qu'on peut restituer, vous pouvez le faire. On peut avoir des choses matérielles à restituer, qu'on a pris dans un bureau, qu'on a pris dans un service. On peut le faire. C'est possible de le faire. Voilà. Finalement, je suis d'entrer dans le temps de prière. C'était fini. Rapidement.
Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, pasteur. Ma question est simple. J'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose que j'ai souvent suivi dans des prédications. Que quand on prie, on doit prier comme si tout dépend de Dieu et agir comme si tout dépendait de nous. J'aimerais savoir exactement ce que ça signifie dans le concret.
Bon, nous sommes en train d'exorder notre thème. Je n'aurais pas voulu. Oui. C'est Dieu qui exauce, qui nous donne ce que nous demandons. Mais il y a des efforts qui dépendent de nous. Ça, c'est la question de l'ordinaire et de l'extraordinaire. Si tu veux un travail, l'effort que tu as à faire, c'est te lever tôt, faire les travaux à la maison bien et sortir, préparer les dossiers pour aller déposer bureau après bureau. Même s'il fait soleil, tu fonces. Sinon, tu n'auras jamais de travail. C'est pas ça. C'est pas Dieu qui va venir faire ça. Ça, c'est l'agir. C'est toi qui le fais. C'est pas Dieu qui le fait. Oui. Si tu veux le travail, tu dors jusqu'à 11h, attends-toi. Qui va te donner le travail là? Je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, c'est-à-dire que des choses pratiques, concrètes, ordinaires qu'il faut faire, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Mais ce qui relève de l'extraordinaire, trouver grâce aux yeux de l'employeur, permettre qu'il se souvienne de ton dossier, permettre qu'il t'accueille favorablement, ça, ça relève de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui va te donner la, qui va venir te réveiller et t'habiller en bonne tenue propre. Va faire l'entretien de travail en tenue sale, tu vas voir. Mais c'est ça, ça relève de toi. C'est ta responsabilité, c'est pas ça? Oui. C'est à toi de laver tes vêtements, les repasser, les mettre correct. C'est en te voyant propre que l'employeur sait que tu vas garder sa société propre. C'est en te voyant correct qu'il sait que tu garderas sa société disciplinée. C'est des choses qui ne se cachent pas, ça se voit. Ça se voit, non? Oui. Si vous êtes mécanicien, vous prenez un pantalon tout blanc pour aller au travail, moi je vais vous fuir. Par principe, un mécanicien, c'est celui qui accepte d'être sale. Si tu as peur de la saleté, tu ne peux pas être un mécanicien. Ça veut dire que si quelqu'un prend une tenue totalement blanche, un complet tout clair, il s'en va dans un garage, ça veut dire que c'est quelqu'un qui mélange les choses. Il ne sait pas définir les priorités. C'est ça que ça veut dire, hein? On peut croire, on peut croire que c'est quelqu'un qui est très correct et tout, mais non, dans ma tête, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une tenue pour la mécanique, pour le garage. Ce n'est pas l'ensemble blanc qui garde ça pour la scène sainte image. Pardon, ne salit pas l'habit de l'église. Mais c'est ça. Ça veut dire qu'il ne met pas les choses à leur place. Il peut prendre le pneu du camion, il tente de monter ça sur ta petite voiture, gars. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, si vous voyez ça dans un autre sens, moi, voilà comment je vois ça. Il y a des choses qui relèvent de notre... Comment je vais dire? De notre responsabilité. Et des choses qui relèvent de Dieu. Laisse Dieu faire ce qu'il a fait. Fais ce que toi tu as fait. Voilà, on va se lever pour prier. Car ta bonté... vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, car ta bonté, car ta bonté, vaut mieux que la vie. Tu vas rendre grâce à Dieu pour l'enseignement de ce soir. Dis-lui merci pour ce moment de partage, d'édification. Dis-lui merci même pour le thème qui t'invite à saisir le courage pour recommencer. Dieu disait à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de la terre que j'ai promis à leur terre, à leur père. Bien-aimé, Dieu a des choses qu'il veut accomplir, mais il faut que toi tu aies courage. Dieu n'a pas dit à Josué qu'il va enlever tous les obstacles. Dieu n'a pas dit à Josué qu'il écarterait toutes les difficultés. Non. Mais ce qu'il lui dit, c'est que devant ces difficultés, devant l'adversité, devant l'échec, devant l'épreuve, devant les frustrations que peuvent t'infliger un échec dans une bataille, prends le courage. Je reste le même Dieu. consulte-moi, reviens à moi. Rends grâce à Dieu parce que ses plans sont parfaits. Et même si tu connais des échecs, des difficultés, des stagnations, les plans de Dieu pour toi ne changent pas. Dieu sait ce qu'il va accomplir pour toi. Il ne s'est pas trompé. Devant cette situation qui t'a déçu, qui te décourage, qui te pousse à abandonner, loue le Seigneur plutôt. Dis-lui, Seigneur, révèle-moi ta volonté cachée derrière cette situation. Demande à Dieu la force pour ne pas abandonner. Refuse la timidité, la froideur qui peuvent tenter de s'imposer en toi devant certaines situations. Refuse le manque de force qui peut tenter de s'imposer à toi devant certains échecs. Refuse l'esprit de démission et de découragement. Et dis à Dieu, Seigneur, même comme je vois cette goulot d'étranglement, je sais que tu as quelque chose que tu vas accomplir. Réoriente la situation. Donne-moi d'examiner pour percevoir là où il y a eu obstacle et repartir. Dis, Seigneur, révèle-moi à quand dans cette situation. Révèle-moi les accents de cette situation afin que je puisse regarder à ma marche, revenir à toi dans la sanctification, afin que je puisse regarder à ma marche, ouvrir mes yeux pour être une véritable sentinelle pour mes frères et sœurs, afin qu'ensemble nous reprenions la bataille avec l'assurance que par toi nous sommes vainqueurs. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as abandonné. Demande pardon à Dieu pour toutes les situations où tu as cru que rien n'était plus possible.
Alléluia. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu.
Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où, devant le moindre obstacle, tu as pensé que tu n'avais plus de capacité et que Dieu ne pouvait plus rien accomplir. Demande pardon à Dieu n'avoir pas pris le temps de chercher sa volonté devant une situation ou une autre. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as fait passer ta volonté avant la sienne. Pierre aurait pu dire à Jésus, tu n'en sais rien. Josué aurait pu dire à Dieu, mon armée n'a pas changé, aïe est toujours le même, si je reviens 10 fois, il me battra. Les disciples, dans la persécution, telle que c'est précisé dans le livre des Actes, auraient pu dire, non, on a trop souffert, cette histoire ne marche pas, et abandonner. Souviens-toi, bien-aimé, que quelques-uns parmi eux ont été tués, ont été lapidés, mais ils ont tenu. Ils ont recommencé à prêcher chaque jour. Et aujourd'hui, vous et moi, nous sommes fils et filles de la résurrection. Gloire à Dieu. Dis, Seigneur, merci pour cela. Et demande-lui pardon chaque fois que tu t'es découragé. Demande-lui pardon chaque fois que tu as manqué le courage de reprendre. Demande-lui pardon chaque fois que tu as pensé que le processus était trop long pour que tu recommences. Dis, Seigneur, cette personne-là, j'ai essayé de me réconcilier avec elle 10 fois, 20 fois, ça n'a pas marché, mais je reprendrai encore le processus. Augmente dans mon cœur l'amour pour lui. Dis, Seigneur, j'ai engagé tel projet, ça n'a pas marché, j'ai abandonné. Donne-moi de réexaminer mes procédures et de reprendre avec toi. Dis, Seigneur, j'ai prié pour cette église. La crise perdue. Les gens continuent à se mépriser, à se jeter les pierres, à se taper la poitrine. Mais je vais continuer à prier. Il veut conduire à garder le regard sur toi. Il veut conduire à te supplier. Il veut conduire à rester un chrétien fidèle. Parce que je sais que par moi, tu peux tout reprendre. Bien-aimé, comme tu es fils du roi des rois, ça veut dire que la royauté t'est destinée. On doit aussi te dire que tu es fils de cette nation et cette nation t'est destinée. Plein de choses ont été faites pour arranger la situation, pour tuer la corruption, les margouilles et autres. Ça n'a pas marché. Mais je voudrais te dire que si tu tiens avec le Seigneur, tu es une étincelle au travers de laquelle Dieu va embraser toute cette nation. Dis Seigneur, avec toi, pour le Cameroun, je recommencerai. Pour le Cameroun, je me lèverai et j'agirai avec fidélité. Pour cette nation, je me mettrai encore à genoux dans la prière. Pour cette nation, j'interpellerai encore. Pour cette nation, autant que faire se peut, je résisterai à la manipulation, à la corruption, au soudoyement. Et Seigneur, je ferai quelque chose. Confesse que tu ne lâcheras pas. Et Seigneur, je ne lâcherai pas. Je tiendrai jusqu'au bout. Parce que la bonté du Seigneur est au-dessus des sacrifices. Est au-dessus même de ma vie. Et il accomplira sa volonté. Quand ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Bien-aimé, il faudrait que tu dises à Dieu, je veux sacrifier quelque chose. Si Dieu veut changer les situations, ça ne peut commencer que par toi, par ta propre vie. Ce que tu as cru être à toi, dis Seigneur, je dispose tout à toi. Je suis prêt à mettre ma vie totalement entre tes mains, là où tu veux et quand tu veux, pour accomplir ta volonté. Je veux que les choses recommencent pour ma famille. Je veux que les choses recommencent pour ma communauté. Je veux que les choses recommencent pour la région. Je veux que les choses recommencent pour l'Église. Je veux que les choses changent pour toute la nation. Et pour cela, je me donne à toi. Je m'offre à toi en sacrifice, ô Père. Fais-en ce que tu veux. Utilise-moi pleinement. Donne-moi de ne pas tomber dans l'erreur de croire que j'ai suffisamment fait. Demande à Dieu de ne pas te tomber dans l'erreur de croire que tu as tout ce qu'il faut. De te satisfaire des petits résultats d'hier. Non, le meilleur reste à venir. Et Seigneur, je suis disposé à choisir d'être meilleur, à choisir, Seigneur, de tout reprendre, à choisir de travailler davantage, à choisir de m'investir davantage, à choisir de tout reprendre là où il faut, pourvu que tu accomplisses ta volonté parfaite. Tu as prié pour un enfant dans ta maison, rien n'a donné. Bien-aimé, je voudrais te dire ce soir que ce n'est pas perdu. La cause n'est pas perdue. Dis Seigneur, je vais reprendre. Je vais encore lui parler. Je vais encore prier pour lui. Je vais encore l'aimer. Je vais encore me sacrifier. Je vais encore m'investir. Parce que je crois qu'avec toi, il peut changer. J'ose recommencer pour sa situation, Seigneur.
Oui, ta bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté.
Bien-aimé, peut-être la situation du Cameroun devait changer depuis. Peut-être la situation de l'église, EEC ou de la paroisse pouvait changer depuis. Peut-être cette situation qui perdure dans ta famille pouvait changer depuis. Mais quand Dieu te regarde, il voit à quand. Supplie le Seigneur afin qu'il ôte le manteau d'Achan de ta vie. Dis Seigneur, enlève le manteau de traîtrise. Enlève le manteau de la duplicité. Enlève le manteau du dédoublement. Enlève le manteau de la fausseté. Enlève le manteau de l'impureté. Enlève le manteau du détournement. Achan a détourné la volonté de Dieu en prenant les choses qui n'étaient pas à lui. Enlève le manteau, Seigneur, de la dissimulation de ma vie. Donne-moi de rechercher la sanctification sans laquelle je ne verrai pas Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce de ce soir. Merci Seigneur parce que ta volonté demeure parfaite. Même si nous ne la sondons pas avec tous les détails, nous croyons avec certitude et conviction que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et même, tu as mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Même si nous ne comprenons pas tout ce que tu fais du commencement jusqu'à la fin, nous croyons, ô Dieu, que ta volonté de nous bénir, ta volonté pour nous d'accomplir tes plans parfaits demeurent éternellement. Et donc, Seigneur, l'échec ne nous fait plus peur. Les souffrances d'hier ne nous retiennent pas. Les barrières qui se sont élevées devant de nous ne feront pas toujours obstacle. Nous confessons, Seigneur, que ce sont des mirages que tu vas ôter afin que d'un pas cadencé, ô notre Dieu, nous laissions aller à toi. Tu accomplisses ta volonté de façon parfaite. Glorifie-toi, ô Seigneur, dans chacune de nos vies, dans chacune de nos entreprises. Aide-nous à tout reprendre avec toi. Tu as dit dans ta parole, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont tes desseins qui s'accomplissent. Ô Seigneur, dissous nos projets dans tes desseins à toi. Glorifie-toi et bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
La grâce est divine.